Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons lire... ce n'est pas une histoire, mais c'est l'histoire. Enfin, est-ce qu'il faut mettre un grand ou un petit H? Je ne sais pas. Est-ce que cette histoire mérite d'être racontée? J'hésite aussi. Néanmoins, elle l'est fort bien. Ici, dans cet album de bande dessinée, bien entendu, dans le cadre de cette chronique, une parution Glénat dans la collection Karma, où il est question de parcours humains divers et variés. Et là, c'est particulièrement varié, effectivement, puisqu'il va être question d'un certain Bob Denard, le dernier mercenaire. C'est le sous-titre, avec au scénario Olivier Jouvret et au dessin ainsi qu'à la couleur. Et ça, c'est quand même, en l'occurrence particulièrement important, Lila Cognier. Alors, je suis sûr qu'une des questions que vous avez envie de poser d'emblée, Thierry, c'est si quelqu'un parmi nos auditeurs a entendu parler de ce Bob Denard.
Parmi les plus jeunes, je n'en suis pas sûr. Bob Denard, c'est, pour les auditeurs d'un certain âge, c'est l'incarnation du mercenaire, de l'homme de l'ombre. C'est quelqu'un qui a une réputation sulfureuse, qui incarne une forme de, de romantisme à l'ancienne, de fascination pour l'aventure. C'est surtout l'incarnation d'une époque et puis des errements de la politique française dans la période post-coloniale. Quand j'ai vu arriver ce livre, c'est quelqu'un dont j'hésitais à lire le récit à la première personne. J'ai ouvert le livre, j'étais dérouté par le dessin. J'ai commencé à lire et j'étais complètement happé, même fasciné. Alors, pas fasciné par le personnage, c'est le danger de ce livre, c'est d'oublier les aspects les plus sombres de ce qu'il ne manque pas concernant cet homme. Toute une époque qui ressurgit avec la nécessité de faire la part des choses, la part de l'information, du fantasme, de la mythomanie, du côté qui peut avoir de sympathique, et puis cette fascination qui risque de disparaître quand on apprend tout ce dans quoi il a pu tremper, y compris dans ses aspects les plus dramatiques.
Alors, il faut préciser que les auteurs n'ont jamais rencontré ce Bob Denard, qui est mort il y a une dizaine d'années.
Oui, il est mort en 2007.
Mais par contre, ils sont partis sur leurs traces. Au scénario, je le disais tout à l'heure, il y a un certain Olivier Jouvret qu'on a déjà rencontré dans la bande dessinée à plusieurs reprises. Il est accompagné d'une de ses anciennes élèves à l'école, entre autres, de bande dessinée qui se trouve à Lyon, Lila Cognier. Et ça forme un ensemble qui permet de prendre du recul par rapport au personnage tout en lui donnant une dimension qui probablement correspondait à cet homme qui s'est quelque part construit de toutes pièces, non ?
Oui, c'est quelqu'un qui suit d'abord une trajectoire familiale. Son père était militaire, donc il s'engage dans l'infanterie de marine au sortir de la guerre. Il va faire la guerre d'Indochine. Il va faire partie de la police militaire au Maroc, encore colonie française. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris en lisant cette biographie, il va tout laisser tomber au bout d'un moment. Il va devenir représentant d'appareils ménagers. Il va devenir, ce pour quoi il est connu, mercenaire. J'ai failli dire, c'est le témoignage de ce que peut être un mercenaire au sens le plus précis et plus large du terme. C'est quelqu'un qui se vend au plus offrant, quitte à défaire un gouvernement pour le refaire avec les mêmes personnes un peu plus tard. C'est un homme qui se voulait libre, même s'il était dans une structure très encadrée comme peut l'être l'armée, qui s'est créé un royaume à la fin de sa vie, je pense à l'affaire des Comores, ce pour quoi il a eu le plus d'ennuis avec la justice.
Donc un homme qui était un peu mythomane et mégalomane.
Oui, il faut faire la part des choses. Dans ce récit à la première personne, il faut éviter la tentation de la fascination, le parfum de l'aventure à l'ancienne. Il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire.
Oui, parce qu'il se dégage aussi un certain romantisme.
Ben oui, c'est ça, un romantisme frelaté. C'est une époque de bouleversement politique. C'est une période où les choses bougent. Les pays qui viennent de s'échapper du joug colonial sont l'objet des convoitises des grandes puissances, que ce soit l'Union soviétique ou les États-Unis, voire les anciennes puissances coloniales qui convoitent la mainmise sur les richesses qui sont encore à disposition, qui sont vite confisquées par les nouvelles élites, enfin les élites, ceux qui profitent du pouvoir, qui détournent l'argent du pouvoir à leur profit. D'ailleurs, c'est le surnom des hommes de Bob Denard. À un moment, c'est les Katangais, c'est pas par hasard, c'est l'épisode du pillage des ressources naturelles du Katanga, enfin, qui a donné lieu à des massacres épouvantables. Un album étonnant, je le disais en préambule, en mentionnant que je l'avais ouvert, que j'avais été saisi par le dessin. Et en préparant cette émission, vous faisiez une remarque très juste, c'est que ce dessin faussement naïf, tout sauf réaliste, où on voit Bob Donner dialoguer tout au long de sa vie avec un squelette ricanant.
Avec la mort, donc.
Avec la mort. Vous évoquez le folklore mexicain autour de la mort.
Tout à fait, effectivement. Et puis, c'est très coloré au niveau de ses dessins. Hein. Donc, on retrouve cette iconographie, en effet, qui permet de prendre de la distance avec le récit, tout en se rendant compte, néanmoins, du côté monstrueux que cela a... Cette histoire de Bob Donner paraît hallucinante, d'autant plus qu'il a accompli ses actes la majeure partie du temps avec, on va dire, l'accord secret de l'État français.
C'est ce qu'on appelait la France-Afrique qui a été mise sur pied avec la bénédiction du général de Gaulle par Jacques Foccart. C'était une façon de garder la main sur les anciennes colonies. Ça a favorisé des pratiques tout à fait détestables, absolument antidémocratiques, et ça a favorisé l'arrivée au pouvoir dans ces pays de dictateurs sanglants, avec une logique mortifère, comme je le disais, d'épisodes de coups d'État successifs où Bob Donner, avec l'appui tacite de la France, défait un dictateur pour le remettre sur le trône un peu après. C'est un livre très engagé finalement politiquement, mais paradoxalement très léger dans son traitement. Je réfléchissais en même temps que se déroule cette chronique. Pour ceux qui connaissent, ce dessin, il évoque beaucoup le dessin de Loustal, qui peut illustrer des récits très réalistes. Loustal, il a illustré Siménon, des histoires criminelles très quotidiennes dans leurs propos. Et en même temps, ce dessin, le dessin de Loustal, met une sorte de distance d'esthétique à la fois désuète et puis intemporelle qu'on retrouve dans ce type de dessin, qui donne une vraie dimension à ce récit qui pourrait être platement documentaire, qui, je le répète, avec l'emploi de la première personne et puis un parti pris graphique vraiment étonnant, donne un charme fou à cette histoire qui donne envie, enfin qui fait découvrir déjà beaucoup de choses, je l'avoue humblement. Bob Donner, c'était à peine un nom pour moi, qui donne envie d'aller plus loin et de s'intéresser au contexte de tout ce qu'a vécu ce personnage, ô combien sulfureux.
Ce qui est déroutant, enfin ce qui fait réfléchir, c'est aussi que Bob Donner se rêvait en mercenaire héroïque et qu'en fait il n'a pas forcément réussi grand-chose dans sa vie.
Non, c'est quelqu'un qui a mis, failli dire, sa science militaire. Enfin, pas tant que ça, d'ailleurs, parce que c'était pas un si bon militaire qu'il l'aurait voulu le faire croire, qui a mis sa force brutale au service des gens les moins recommandables, qui s'est rêvé roi lui-même, puisque l'affaire des Comores, c'est un épisode désastreux où il a confisqué le pouvoir d'une certaine façon à son avantage. C'est quelqu'un qui a rêvé sa vie, mais pas dans le sens noble du terme. C'est effectivement largement un mythomane qui a fini piteusement, hein, traqué par la justice et puis ruiné aux abois. C'est un personnage quand même essentiellement pathétique, mais très éclairant, je vous le disais, sur toute une période, sur des pratiques qui, je l'espère, ont disparu, au moins se sont rationalisées, se sont atténuées.
Alors ça, c'est pas sûr du tout ce que
non,
vous dites,
Thierry.
Non,
je le dis, en même temps, j'y crois pas.
D'ailleurs, la fin de l'ouvrage le mentionne, c'est qu'aujourd'hui, tout cela s'est professionnalisé, on va dire ça comme ça. Hein. C'est devenu du business, en fait.
Oui, Bob Donner, c'est encore du bricolage. On a des professionnels de la guerre, de la déstabilisation avec de la technologie, tout ce que n'avait pas Bob, ce cher Bob Donner, qui se rêvait héroïque et qui était plutôt piteux.
Et c'est en cela que ce récit est effectivement engagé. Hein. Il y a une dimension qui peut paraître populaire, joyeuse presque, avec le dessin, avec cette iconographie dont on parlait. Mais en fait, ça va bien plus loin que cela. D'ailleurs, on a des entretiens avec les auteurs à la fin de ce livre qui aident à comprendre pourquoi ils ont choisi d'aborder ce sujet. En particulier, la dessinatrice nous montre qu'elle n'était pas vraiment intéressée par cela au départ, mais qu'elle est rentrée facilement dans le récit autour de ce personnage qui est une icône en lui-même.
Oui, c'était une sorte de défi. Ce personnage, il n'a pas de valeur en lui-même, mais une fois qu'on s'y intéresse, il ouvre la porte de tout un monde qui vous rend créatif. Et Dieu sait si cet album est créatif et fascinant.
Voilà, Bob Donner, le dernier mercenaire chez Glénat. C'est sûr que quand on lit uniquement le titre, ça fait un peu peur, mais en fait, comme vous le mentionniez tout à l'heure Thierry, quand on commence à lire, eh bien on a envie d'aller jusqu'au bout. C'est une parution Glénat que nous vous conseillons parce qu'il y a des choses à découvrir, une curiosité qui est constamment attisée à travers cette lecture. Merci Thierry, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bandes dessinées.